Je vais me faire très rapide, et je vais parler du point de vue de l'équipe des traducteurs, de la traduction française de ce livre. Je ne suis pas la seule dans cette salle, il y a Olivier qui nous a rejoint, qui est le coordinateur de la traduction, que je remercie, Frédéric et Nicolas aussi Sorek qui est là. Et moi, je voulais reprendre simplement la première phrase que Sique dit dans le film qu'on a présenté, hein. Les communs, c'est une pratique. C'est une action de transformation, tu l'as dit. Et je voulais plutôt vous dire un regard sur l'ouvrage en tant qu'objet et en tant qu'objet subversif, ce mot aussi m'intéresse. C'est un mot qu'on a retenu dans la traduction française qui n'est pas mis en avant dans la traduction anglaise. Et cette dimension subversive, je pense qu'on peut la trouver à la fois dans, bien sûr, l'analyse du travail politique de Silke, mais également dans des formes de subversion qui sont vraiment propres à sa personne, sa capacité à faire des pas de côté. Et ce livre est aussi un ouvrage qui traduit des pas de côté formels, des pas de côté méthodologiques. Et donc, c'est plutôt de ça que je voudrais rendre compte, avec deux idées. La première idée d'abord, c'est que pour moi, alors j'ai ce biais d'être designer, et donc je vois ça comme ce travail-là, comme un objet qui propose des pratiques de conception. Et donc c'est dans ce prisme-là que je voudrais vous proposer de regarder aussi l'ouvrage. Et je voudrais, dans un deuxième temps, vous montrer en quoi, pour moi, cet ouvrage, il n'est pas isolé et qu'il participe plus largement par ses prises de position formelles à revisiter des enjeux contemporains qui touchent à la question de nos représentations du monde. En très simple, sur le premier point, on dit du design, pour se mettre tous d'accord, mais j'étais intéressée par votre question tout à l'heure, on dit du design souvent qu'il s'intéresse, qu'il s'attache à maintenir l'habitabilité du monde dans toutes ses dimensions. Alors ça, on pourrait en discuter et remettre largement en question cette dimension. En tout cas, un designer, quand il conçoit un objet, un produit, un service, il tient à cette dimension-là. Pour autant, les enjeux de design sont de plus en plus larges, touchent de plus en plus de personnes. On a parlé de participation des humains et des non-humains. Ils touchent des échelles plus larges, des enjeux plus complexes et entremêlés. Et aujourd'hui, quand on parle de design, on se dit finalement, on est un peu tous designers, et être au monde, c'est transformer le monde, et c'est déjà mettre en œuvre une action de conception par la simple présence au monde. C'est un peu ça que je retiens de l'ouvrage de Silke, et je pense que l'ensemble de ces actions transformatrices, vous y répondez, David et Silke, par ces patterns de colonie qui sont présentés dans l'ouvrage comme des outils de conception. Étudier, enquêter, faire advenir et préserver les communs, sous-entendrait donc faire appel à quelque chose de l'ordre d'une pratique de conception, peut-être faire œuvre d'un design des communs, qui sait. En tout cas, je voulais auprès de vous ressouligner la définition des patterns. Ça a été une question qu'a aussi posée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on entend par pattern et qu'est-ce qui distingue le pattern du cas, en fait, de l'étude de cas? Et vous distinguez aussi dans votre ouvrage la notion de principe. Et vous dites, donc, des outils de conception, les patterns sont des outils de conception susceptibles de faire face aux défis pratiques qui sont les nôtres, tout en respectant les exigences intérieures en matière éthique, en matière d'esthétique et en matière de spiritualité. Vous dites, les patterns sont des vecteurs de vitalité. Il ne s'agit pas d'un système de règles ou de standards relatifs à la manière dont les choses doivent être contrôlées ou régularisées, ni de déclarations de principes abstraites ayant une portée morale ou normative. Les patterns décrivent, mais ne prescrivent pas. Cela ne veut pas dire que les patterns sont dépourvus de dimension éthique, mais que les aspirations éthiques doivent prendre en compte les réalités situées. Un pattern n'est donc pas un idéal éthique ou philosophique, mais un concept qui distille l'essence d'une grande variété de solutions mises en place par des individus parce qu'elles fonctionnent bien et contribuent à améliorer leur vie. Voilà, donc je voulais souligner cette dimension des patterns comme des outils à faire dans une approche très pragmatique. Et c'est une dimension que je voulais souligner pour bien comprendre l'ouvrage. Et la deuxième dimension, c'est la dimension autour de la grammaire visuelle que vous avez développée, qui est un travail qui, pour moi, est présenté souvent un peu à la marge, voire pas présenté, et qui, pour autant, est peut-être plus important qu'on ne le croit. Pour moi, cette démarche de représentation des patterns est concomitante d'une démarche plus générale qui s'attache à re-questionner nos modes de représentation. À ce titre, donc, je voulais vous donner à l'écran donc, la bibliothèque qu'on retrouve sur le site de FreeFairly Live avec l'ensemble de la grammaire visuelle. Vous avez une explicitation, on reparle même des graphismes, des représentations du réseau hein, pour arriver à une représentation des communs, puis qui est développée ensuite par les graphistes, tu pourras peut-être en parler. Et pour moi, ça fait écho, alors je vous donne deux travaux que vous connaissez peut-être. Ça fait écho aux travaux d'Alexandra Arène, Frédéric Aitouati et Axel Grégoire, qui ont sorti cet ouvrage qui s'appelle Terraforma, que vous connaissez peut-être, qui s'attache à re-questionner complètement notre manière de cartographier le monde et qui s'intéresse précisément à revisiter l'Atlas à travers la question des relations. Et donc on retrouve cette obsession ou ce principe qui prime, qui est la question de la relation dans une cartographie terrestre. Et pour moi, les liens sont très forts entre cette manière de revisiter la carte par la relation avec le travail que vous faites sur les patterns, chose que n'avait pas entamé Terraforma, puisque vous réenglobez, vous réattrapez le social et l'humain dans cette cartographie du terrestre. Donc pour moi, des choses à croiser. Le deuxième exemple que je voulais montrer, c'est ce travail de Simone Fehlinger qui repose la question de comment nous présentons la météo. Voilà, tous nos codes sont à recartographier et je pense que vous y participez. Moi, je suis prof avec des étudiants designers. Les patterns que vous voyez à l'écran, c'est les patterns qu'ils ont créés à partir de votre ouvrage, notamment en questionnant la relation entre l'humain et l'humain. Donc, vous avez déjà des jeunes qui ont pris la relève sur la création de patterns et qui ont aussi conçu des objets permettant de combiner les patterns pour modéliser les situations. Voilà, tout ça pour dire que je trouve extrêmement intéressant de rendre hommage à votre travail aussi graphique ou en tout cas formel. Qui, pour moi, contribue à prolonger la question de la description et de l'enquête. Et cette question de la description et de l'enquête toujours à faire, à l'ère de l'Anthropocène, et à l'ère de la crise, enfin, à un moment où il me semble qu'on est aussi en crise de représentation, elle permet de reposer un certain nombre de questions, comment s'orienter, comment se repositionner dans le monde, sans passer par des modes de représentation dominants, parfois hérités de la modernité. Comment habiter parmi les autres, et plus précisément avec les autres, et les autres plus qu'humains. Comment traduire ces cohabitations, comment les représenter. Voilà, j'espère qu'on aura l'occasion de voir ce travail sur les patterns se poursuivre.
Merci Sylvia, c'est passionnant.